Vous écoutez, on lit pour vous.
Mélissa d'Acosta, Survivre à sa vie. Un texte d'Isabelle Beaulieu paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Le succès que connaît Mélissa d'Acosta n'est plus approuvé. En France, elle se tient en haut de la liste des meilleurs vendeurs, tandis qu'au Québec, elle compte toujours de plus en plus d'adeptes. 3 millions de lecteurs et de lectrices plus tard, elle revient cette saison avec l'adaptation en bande dessinée de son best-seller « Tout le bleu du ciel » et avec « Tenir debout », un 8e roman qui jette un regard profond sur les aléas d'un couple malmené par le sort et qui aura beaucoup à faire pour rester uni. Mélissa d'Acosta est en train de mettre un point final à son livre « Les douleurs fantômes » 2022, sur les retrouvailles d'un groupe de 4 amis quand surgit l'idée de « Tenir debout », tout juste sorti en librairie en août dernier. Dans le premier, il est question d'un personnage, Anton, qui, après une terrible chute, doit désormais vivre ses jours en fauteuil roulant. Mais le sujet est évoqué sans pour autant être approfondi, et l'autrice croit que le thème mérite à lui seul l'élaboration d'un livre à part entière. Entre-temps, elle publie 2 romans, « La doublure » 2022, « Les femmes du bout du monde » 2023, mais bientôt se penche sur l'histoire de François et d'Éléonore, ces tourtereaux écorchés qui auront des défis considérables à relever pour espérer résister au revers. Je me suis dit qu'il fallait que j'essaie d'écrire là-dessus, sur le couple confronté au handicap et à la dépendance, mais en partant d'un couple purement passionnel et charnel, et voir s'il pourrait survivre, explique l'écrivaine. Parce qu'en effet, les 2 Valentins se sont rencontrés depuis peu et le feu est encore au rendez-vous. Lui est déjà marié à Isabelle, jouit d'une carrière d'acteur florissante à Paris et mène la grande vie avec son nom en tête d'affiche. Quand elle fait sa connaissance, Éléonore, de près de 20 ans sa cadette, habite seule dans un petit studio et est ouvreuse au théâtre où il tient le rôle-titre dans la pièce « Don Juan ». Un soir, après la représentation, il l'invite à sortir avec la troupe au Melchior. Après quelques séances de baisers clandestins dans les arrières du bar, la relation s'officialise. Il quitte sa femme et entreprend de déménager avec Léo dans un appartement situé juste en face du parc des Buttes-Chaumont. Totalement épris, les amants sont toutefois interrompus dans leurs élans lorsque François perd l'usage de ses jambes dans un accident de scooter. À partir de cet instant, le cours de la vie bascule du tout au tout. Ils devront traverser d'importantes remises en question et surtout une gamme d'émotions allant du déni à une relative sérénité en passant par l'aigreur et le désarroi. Accéder à la vérité. Pour bien transmettre l'intensité de la situation, Mélissa d'Acosta opte tout de suite pour la double narration alternée. « Je voulais vraiment être le couple, pas du côté de l'un ou de l'autre, et je voulais un roman dans lequel on est au plus près de l'intimité et des pensées les plus personnelles et les plus inavouables de chacun », précise l'autrice. « Je voulais être dans le ressenti aussi », Je ne me voyais pas parler du handicap sans projeter le lecteur dans ce corps de douleur, ce corps prison, cette impuissance et cette colère. Afin de rendre compte de la réalité, d'Acosta effectue ses recherches et prend contact avec Yann et Pauline, le premier ayant eu à apprivoiser une nouvelle existence avec un fauteuil et par là, quoique d'une autre manière, sa conjointe également. Même si ce n'est pas leur vécu qui est raconté dans « Tenir debout », leur témoignage vient très sûrement influer sur le fait que l'écrivaine réussit à décrire si justement les états émotifs des personnages et les spécificités médicales de la paraplégie. Les bouleversements psychologiques et la réadaptation complexe du corps sont au centre de la tentative d'adaptation de François. Éléonore, quant à elle, est prête à lui apporter toute l'aide nécessaire et elle y emploie toutes ses forces, sa volonté et son amour. Mais les humeurs difficiles de son partenaire viennent parfois à bout de sa patience, lui faisant mettre en doute son utilité auprès de lui, l'amenant même à se demander si sa présence est souhaitée par l'homme qu'elle aime. Ce dernier a tout à reconstruire, mais encore faut-il qu'il l'admette et puisse accepter l'évidence. Des allers-retours multipliés de haut et de bas l'amèneront vers le moment de la sortie du centre de rééducation. Cependant, le retour dehors s'avère beaucoup moins simple que prévu. Ajustement, prise de conscience, incompréhension, rapprochement. Quand les amoureux croient avoir enfin la tête hors de l'eau, un nouveau déferlement les submerge. Son ex-femme voudra persuader François de reprendre son métier d'acteur, mais celui-ci ne s'y voit plus. Je crois que c'est quelque chose qui revient beaucoup quand les gens sont touchés par un accident. Ils ont plus de facilité à faire table rase et à se lancer complètement dans autre chose, parce qu'au moins il n'y a pas la comparaison de la personne d'avant avec celle d'après, expose l'autrice. François veut être aux antipodes de ce qu'il a été pour qu'il n'y ait plus ce rappel permanent à son passé. Pour lui, son image de comédien est associée à son aura, à son charisme, à lui dans toute sa splendeur. Or, il ne parvient plus à s'imaginer comme tel, l'estime ayant aussi été abîmée dans l'accident. La perception de soi et la confiance sont à regagner, comme le corps doit s'habituer à un état inédit. Première lueur. François reprendra véritablement goût à la vie lorsque la venue d'un enfant est envisagée. Lui, qui ne semble pas avoir désiré la paternité auparavant, s'illumine maintenant à cette perspective qui le remet en piste. Il se dit qu'il n'est plus un amant, plus un compagnon, plus un comédien, qu'il est un bon à rien. Mais s'occuper d'un petit bébé qui n'attendra rien de lui, qui n'a pas d'a priori et qui ne l'a pas connu valide, lui donne l'impression de redevenir quelqu'un et d'avoir un nouveau rôle à jouer, dit l'écrivaine. Mais créer la vie dans sa condition n'est pas chose aisée. D'ailleurs, François et Éléonore auront à redéfinir toute la façon de concevoir les rapports sexuels. Éléonore, pour sa part, se surprend à recevoir une bouffée d'oxygène lorsqu'elle se met à écrire, une façon pour Dacosta d'exprimer son propre rapport à l'écriture. « J'ai commencé à apprendre à former des mots et à les assembler à 7 ans, et je rentrais de l'école, surexcité. Je prenais une feuille et un crayon et j'inventais des phrases parce que j'avais compris que, comme ça, je donnais vie à une espèce d'univers parallèle dans lequel il se passait exactement ce que je voulais, confie-t-elle. J'avais l'impression d'avoir une baguette magique et je trouvais ça incroyable, c'était grisant. Elle transfère donc à Léo ce pouvoir qui servira à son affranchissement. Avec « Tenir debout », l'autrice tient à distance les commentaires voulant lui accoler l'étiquette d'autrice à roman « Feel Good ». Avec celui-là, déjà j'ai senti qu'il y avait une prise de risque parce que je vais sur des sujets pas faciles et assez crus, avec un peu de violence parfois, des sujets peu abordés et encore un peu tabous. On préfère détourner le regard plutôt que de s'intéresser de très près à tout ça. La composition étoffée des personnages et le récit, tissé avec attention, minutie et sensibilité, élargiront certainement l'éventail de ses nombreux lecteurs et lectrices convaincus. J'ai décidé avec culot de sortir en rentrée littéraire en me disant « Voilà, on va casser une bonne fois pour toutes cette image gentillette de petit roman parfumé. » C'est ainsi que l'on retrouve entre nos mains cet automne un pavé substantiel et abouti de Mélissa Dacosta, 608 pages, nous menant dans la psyché et le cœur de deux êtres éprouvés. C'était Mélissa Dacosta, Survivre à sa vie, un texte d'Isabelle Beaulieu paru le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.
transition énergétique. Le vent tourne à Inuvik. Un texte de Yacine Sharaf-Eddin, paru le 19 août 2023 dans l'Aquilon des territoires du Nord-Ouest. Le projet, initialement prévu pour fin 2022, a connu quelques ralentissements. La raison principale du retard du projet est liée à l'achèvement de la route d'accès. La route d'accès provisoire a été terminée en avril 2023, soit environ 10 mois après la date de fin initialement prévue, souligne par courriel les relations médiatiques de la Société d'énergie des territoires du Nord-Ouest, NTPC. À cela se sont ajoutées des livraisons incomplètes de composants en acier structuraux nécessaires pour la base des turbines, ainsi que l'entreprise chargée de la construction de la route, qui a été remplacée par une autre au début de 2023 en raison de problèmes de performance. Transition énergétique. Le projet revêt une importance capitale au sein de la stratégie énergétique 2030 des territoires du Nord-Ouest, TNO, visant à alimenter le réseau local en électricité propre pour les 25 à 30 prochaines années. La stratégie énergétique 2030 constitue le cadre directeur des TNO pour garantir une énergie sécurisée, abordable et durable sur leur territoire. Les territoires du Nord-Ouest se sont engagés à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre de 30 % par rapport au niveau de 2005 d'ici 2030, peut-on lire dans le courriel. Un des 6 objectifs stratégiques est de réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la production d'électricité dans les communautés alimentées au diesel de 25 %. Inuvik est la plus grande communauté alimentée au diesel des TNO. Le vent étant une ressource locale, il constitue une alternative logique au diesel. Une fois entièrement mise en service, on s'attend à ce que la turbine réduise la consommation de diesel à Inuvik de 30 %. Cela entraînera des économies significatives de coûts de carburant au fil du temps. Ainsi, le projet Inuvik High Point Wind joue un rôle crucial dans la préservation de la sécurité énergétique des territoires du Nord-Ouest. Un projet respectueux de son environnement. Diverses mesures ont été mises en œuvre afin de limiter au maximum l'impact sur la faune environnante. Pour commencer, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a collaboré avec les communautés, les gouvernements autochtones et les organisations autochtones locales pour faire progresser ce projet important et garantir leur participation dans le développement de solutions énergétiques. Le projet a obtenu un permis d'utilisation des terres et une licence d'eau de la part de l'Office des terres et des eaux de Gwich'in le 27 novembre 2020. Peut-on lire dans le courriel. L'Office des terres et des eaux des Gwich'in est une entité de régulation dont le mandat consiste à garantir la préservation, le développement et l'utilisation durable des ressources en terre et en eau dans la région de règlement des Gwich'in. De cet accord, la NTPC est tenue de prendre des mesures adéquates pour prévenir les impacts sur la faune et les habitats aquatiques, suspendre les travaux si des caribous sont à moins de 500 mètres, réduire les activités en cas de présence d'oiseaux migrateurs, de leurs nids ou d'espèces en danger pour éviter les perturbations. Source d'emploi. La transition énergétique constitue certes l'essence du projet. Mettre fin à un secteur aussi polluant que celui du diesel aurait pour conséquence automatique une diminution d'emplois touchant potentiellement des centaines, voire des milliers de personnes. Le NTPC et le gouvernement des territoires du Nord-Ouest ont travaillé en étroite collaboration avec le conseil tribal des Gwich'in pour s'assurer que les entreprises locales et autochtones bénéficient économiquement du projet éolien Inuvik High Point, peut-on lire dans le courriel. Le contrat pour la construction de la route d'accès au site des éoliennes a été exclusivement attribué aux entreprises Gwich'in et plusieurs entreprises locales ont été impliquées dans cette phase du projet. Plus de 90 % des travaux sur la route ont été réalisés par des résidents locaux. C'était Transition énergétique, le vent tourne à Inuvik. Un texte de Yassine Sharaf-Eddine, paru le 19 août 2023 dans L'Aquilon des territoires du Nord-Ouest.
L'été dernier, une chronique de Félix Morin parue le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires. Écrire, ce n'est pas pour moi. Durant les 7 dernières années, j'ai été incapable d'écrire une seule ligne un tant soit peu littéraire. J'arrivais à lire et à préparer des entretiens littéraires, mais l'idée de créer était l'objet d'un blocage. Mon rapport à la création et à la réflexion s'arrêtait à celui d'un passeur culturel qui avait la chance de s'entretenir avec des personnes dont j'admirais le travail. Deux mémoires de maîtrise s'abordaient plus tard, j'ai été obligé de voir les choses en face. La pensée et l'écriture, c'est pour les autres. C'est l'été dernier, chez Caroline, que j'ai osé dire, tant à elle qu'à moi, que je ne me sentais pas suffisamment intelligent et pertinent pour écrire. Refuser de naître. Dans son livre « Rue du Plessis », Jean-Philippe Plot raconte qu'il a trois dates de naissance. S'appuyant sur « Principe d'une pensée critique » de Didier Héribon, il explique avoir une date de naissance biologique et deux dates de naissance culturelle, dont l'une est celle de sa rencontre avec Grégoire Bédard, enseignant de français au cégep de Drummondville. Encouragé par sa blonde de l'époque à envoyer un poème à la revue littéraire que Grégoire dirigeait, il s'est fait proposer, à la suite de la parution de son texte, de coordonner la revue. L'importance de cette rencontre dans son parcours est considérable, parce que ce professeur lui a fait prendre conscience qu'il pouvait lire, créer et penser alors qu'il ne s'en croyait pas capable. Il faut dire cela de l'essai de Jean-Philippe. C'est une chose de se faire offrir une main tendue, c'en est une autre de la prendre. J'écris cela parce que, malgré les encouragements, il faut aussi se donner le droit de penser en son nom propre. Écrire, pour plusieurs, est une affaire de permission. Il faut parfois se faire dire que notre voix compte et y croire. Le grand mérite de Jean-Philippe Plot, outre cette écriture sensible et intelligente, c'est qu'il nous montre comment il a su, dans la douleur, prendre l'aide qui lui a été proposée pour s'arracher à son milieu social et à lui-même. Se perdre. J'ai été ébranlé par le passage où Michel Lacroix, dans « Cécile et Marx », parle de la honte qu'il a ressentie, à la maîtrise, lorsqu'il relisait les marges des livres qu'il a lus au cégep ou au baccalauréat. Il dit qu'il n'avait plus confiance en la pérennité de son jugement. S'inscrivant dans le sillage de sa grande-tante Cécile, dont la langue ricaneuse, pleine de spontanéité, mais quelque peu inquiète devant les beaux parleurs susceptibles de gêner, il se demande « Est-il possible de voir dans les pauvres annotations de ses premiers livres comme dans la honte de ses annotations une trace de la gêne de Cécile devant les gens importants ?» Ces pages me touchent parce que j'ai longtemps considéré, à l'inverse de cet essayiste dont j'aime tant le livre, que les marges de mes bouquins incarnaient le seul lieu où j'avais le droit de penser et d'écrire. Mes proches le savent. Il y a des commentaires dans les marges, des pages cornées et des passages soulignés. Mes livres sont travaillés par ma lecture. J'abîme les pages dans l'espoir que ces mots et pensées m'arrachent à moi-même. Je lis pour rester en mouvement, pour me déprendre de ce moi que j'étais avant la lecture. En fait, ma plus grande peur serait de me retrouver encore dans mes annotations. En lisant Cécile et Marx, j'ai réalisé que je n'avais pas honte des marges simplement parce que l'écart entre ce que j'étais et ce que je suis, au contraire, me rassure et me montre chaque fois cette puissance de la lecture, nous transformer. La lecture fait cette promesse que je chéris, mais elle ne me suffit plus. Est-ce que cette croyance en la puissance de la lecture serait en fait une bouée de sauvetage? Est-ce que cette foi dans le silence de la lecture n'était pas l'excuse parfaite pour ne pas prendre parole? Réduire au silence. La lecture de « Pourquoi je n'écris pas » de Benoît Jodoin a été un bouleversement. Dans cet essai, il explore les mécanismes sociaux qui freinent son écriture. Alors que, pour moi, la lecture était un lieu de quiétude où je pouvais me déprendre de moi, Benoît Jodoin m'a fait comprendre que ce lieu était en fait le refuge d'une fuite qui refusait de se nommer. L'un des tours de force de Benoît Jodoin est d'avoir vu dans la quiétude de la lecture la censure de l'acte d'écrire. On ne parle pas assez du rôle des lecteurs, lectrices, comme celui d'un écrivain, une écrivaine, réduite au silence, ce qui n'est pas toujours un choix. Il rajoute « Ce qui se forme en lisant devrait pouvoir s'écrire. Il y a une littérature fantôme réduite au silence dans les marges des textes lus. » Comme un écho au texte de Michel Lacroix, les marges ici renouent avec la honte, mais celle d'en sortir. Il m'a forcé à voir que c'est dans le confort de mes annotations que j'ai enfoui mon désir d'écrire en mon nom propre. C'est dans la lecture de mes livres que je me suis caché pour exister. Je suis cette parole non assumée dont il parle si justement. Cet ouvrage et ce texte partagent d'ailleurs une même contradiction. Écrire pour expliquer pourquoi je n'écris pas, et ce faisant, invalider ma propre conviction. Ce qui es-tu? C'est l'été dernier, chez Caroline, que j'ai osé lui dire pourquoi je ne me sentais pas capable d'écrire. Elle a accueilli mon aveu d'échec comme on prend l'appel d'un ami dans la nuit, avec le sérieux et la vérité des décisions charnières. Elle m'a simplement dit « J'ai le goût de lire ce que tu penses ». À partir de ce moment, tranquillement, j'ai commencé à défaire ma barricade, à écrire ce que j'avais tué en moi depuis longtemps. Lorsqu'on m'a proposé cette chronique, j'ai douté longuement, mais je me suis souvenu de cet échange et j'ai accepté. Je ne crois pas me tromper en affirmant que nous sommes nombreux à ne pas nous sentir légitimes d'écrire. Il m'a fallu Caroline pour oser quitter les marges de mes livres. Comme pour Ducharme, qui lui a permis de raconter son histoire, elle m'a donné l'élan pour passer d'une vie à une autre. Le 5 juillet 2023, je suis né. C'était l'été dernier, une chronique de Félix Morin parue le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.
Le ballon dirigeable, Une solution pour livrer des marchandises en Arctique? Un texte de Nelly Guidici, paru le 18 août 2023 dans l'Aquilon des territoires du Nord-Ouest. Cette signature marque le début d'une collaboration entre les deux entreprises qui entrevoient une solution d'avenir pour l'envoi de marchandises dans l'Arctique canadien avec des ballons dirigeables. Sébastien Bougon, fondateur de l'entreprise Flying Whales, estime que les ballons dirigeables à structure rigide, qui permettront de transporter des charges lourdes ou indivisibles, sont une solution idéale pour le Nord. Cette technologie permettra, selon le directeur, de faire face aux défis en matière de coûts et de logistique de l'envoi de matériaux dans l'extrême Arctique canadien. Nous sommes ravis de nous associer à Flying Whales pour leur innovation qui change la donne. Le dirigeable développé par Flying Whales représente le meilleur et le plus avancé des dirigeables pour nos opérations canadiennes, a déclaré Michael Rodiniuk, président et directeur général de Canadian North Airlines, dans un communiqué de presse. Chaque année, Canadian North transporte plus de 25 millions de kilogrammes de fret, y compris de la nourriture et des médicaments, aux collectivités éloignées des territoires du Nord-Ouest et du Nunavut. Selon Jérémy Bellefeuille, responsable des relations avec les médias au sein de Canadian North, l'entreprise explore de façon continue des solutions innovantes variées, comme l'utilisation de dirigeables pour le transport de marchandises. Nous sommes impatients de collaborer avec Flying Whales pour potentiellement améliorer l'efficacité et la durabilité des livraisons aux communautés éloignées et nordiques de l'Arctique canadien, a-t-il déclaré dans un échange de courriel. C'était le ballon dirigeable, une solution pour livrer des marchandises en Arctique? Un texte de Nelly Guidici, paru le 18 août 2023 dans l'Aquilon des territoires du Nord-Ouest.